Pour présenter mon invité, j'ai choisi trois adjectifs. Familial, parce que son enfance et son adolescence ont baigné dans une famille de haute lignée remontant jusqu'au marquis de Saint-Fargeau, mort le même jour que Louis XVI. Érudit, parce qu'il est membre de l'Académie française, licencié de lettres, d'histoire, agrégé de philosophie. Sa quarantaine de romans témoigne d'un talent littéraire incontestable. Et puis épatant, parce que c'est peut-être son mot préféré, mais surtout parce que derrière son regard malicieux se trouve un homme épatant que tout le monde aimerait avoir pour grand-père. Son patronyme complet, Jean-Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre d'Ormesson. On le surnomme parfois Jean d'O, tout simplement. Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Pas mal, pas mal.
Oui, on sait les soucis que vous avez eus en début d'année.
J'ai eu quelques mois difficiles, mais c'est derrière moi maintenant et on n'en parle plus.
Bon, les alizés vous portent vers les quoi, 90 bientôt ?
Mon Dieu, oui.
Comment vivez-vous cette avancée dans l'âge, vous dont l'œuvre est une méditation inlassable sur le temps ?
Vous savez, vieillir est le seul moyen de ne pas mourir. Et en même temps, je ne m'occupe pas beaucoup de la mort. Vous savez, je suis plutôt un partisan de Spinoza, la philosophie, et une méditation sur la vie plutôt que sur la mort. Mais il est vrai que la mort fait aussi partie de la vie. Vous savez pourquoi nous mourons ? Nous mourons parce que nous vivons.
Dès qu'on naît, on avance vers la mort, hein, de toute
façon. Voilà, Heidegger le dit très bien, l'enfant qui naît est déjà assez vieux pour mourir.
C'est vrai.
Et évidemment, ce qui est triste, ce n'est pas les vieillards qui meurent. Ce qui est triste, c'est les enfants qui meurent.
Mais est-ce que votre maladie vous a fait penser davantage à la mort ?
Pas vraiment. J'ai toujours été optimiste. Mourir ne doit pas être très agréable. Mais être mort doit être délicieux.
Qu'est-ce que vous imaginez derrière ?
Ah oui, on n'a plus rangé sa voiture, on n'a pas de chagrin d'amour, on n'a plus à payer ses dettes, on n'a plus à s'occuper de rien, ouais. Quel délice !
Et vous croyez à ces paradis blancs, ces choses un peu lumineuses dont tout le monde parle ?
Non, je crois plutôt à ce que disait François Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit.
Je crois aux forces de l'esprit, 95, juste avant de mourir. Jean d'Ormesson, votre dernier livre est aussi délicieux que les précédents. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Chez Robert Laffont. D'abord, racontez-nous ce titre qui vient d'Aragon.
Naturellement, vous savez, j'ai une grande admiration pour Aragon. Je crois qu'Aragon est non seulement un grand écrivain, mais vraiment, je crois qu'il est de la lignée des Ronsard, des Racine, des Chateaubriand, des Hugo. Ce qu'il y a de merveilleux chez Aragon, c'est qu'il est passé par toutes les formes de l'opposition. Il a été surréaliste, il a été communiste, et vous savez ce qu'il est maintenant ? Un grand classique. Ça, c'est extraordinairement français.
C'est paradoxal que vous aimiez tant Aragon, vous l'homme de droite, lui comment ? Qui a quand même été l'homme de gauche.
Alors, on a prononcé le nom de François Mitterrand tout à l'heure. Je me rappelle très bien François Mitterrand me disant...
Vous êtes le dernier à l'avoir vu avant sa mort, hein, c'est vrai ?
Le dernier.
Le dernier, oui.
Le dernier à avoir vu Mitterrand...
Président.
Président de la République. Pendant 2 heures, je l'ai vu, le médecin, le docteur Tarot, passait la tête de temps en temps. Il disait, Monsieur le Président, il n'y a plus que 20 minutes avant l'arrivée de Chirac. Et Mitterrand l'a renvoyé. Et à un moment donné, il a dit, Monsieur le Président, Chirac est en route, il va être là dans 5 minutes. Et Mitterrand a répondu, vous me préviendrez quand il sera là. Jusque-là, je parle avec M. d'Ormesson. Vous comprenez que ça m'a monté à la tête, cette histoire-là. Mitterrand me disait, vous aimez Chardonne, n'est-ce pas ? Je lui disais, pas tellement, non, je préfère Aragon. Et il me répondait, tiens, vous préférez Aragon. Lui, il préférait de loin Chardonne.
Oui, c'est le paradoxe de l'histoire.
Ils avaient en commun la Charente et une certaine culture de droite affichée chez Chardonne.
Mais vous êtes de gauche, alors ?
Pas du tout. Pas du tout, mais ce que j'aime, c'est la littérature. Et je mets la littérature très au-dessus de la politique. J'ai aimé Aragon et j'ai aimé Morand.
Alors, vous ne m'avez pas raconté le titre, hein, parce que un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. C'est la suite
mais
d'un double
vers
dans le premier. Et c'est une chose étrange à la fin que le monde que vous avez écrit en 2010.
Mais oui, il y a dans mon dernier livre, il y a un « en »
Bah oui, est en sans en avoir tout dit.
Sans en avoir tout dit. Et il y a des lecteurs, vous savez, les lecteurs sont très attentifs, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que fait là ce « en » ? Et bien, naturellement, ça fait allusion à que c'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit. Mais même comme ça, isolé, ça donne une espèce de flou, de sfumato.
Est-ce que ça veut dire que quand vous aviez écrit le premier, en 2010, c'est une chose étrange à la fin que le monde, vous saviez déjà que vous écririez le deuxième ? Je m'en irai sans en avoir tout dit.
Eh bien, je dirais obscurément oui. Et peut-être qu'en écrivant le deuxième, je sais obscurément qu'il y en aura un troisième.
Vous y retracez en tout cas dans celui-ci votre parcours par des souvenirs intimes et émouvants, des anecdotes croustillantes. Est-ce qu'il faut le considérer enfin comme vos mémoires ?
Je vois qu'on a parlé du « en » tout à l'heure, oui, et maintenant c'est le « enfin ».
Il est important,
je
celui-là.
Vois bien ce qu'elle... Vous avez tout à fait raison. J'ai écrit plusieurs fois mon dernier livre. C'était de bonne foi. On m'a dit... D'abord, c'est un testament, je ne crois pas. Et on m'a dit, pourquoi vous appelez ça roman ? Mais j'appelle ça roman parce que c'est un roman. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant, il y a un personnage bien intéressant qui s'appelle Pama Carpo. Je crois que j'ai connu ce personnage. Est-ce que vous pouvez me donner ses coordonnées ? J'ai dû répondre, c'est entièrement inventé. Et même mon grand-père, c'est inventé.
Que garderez-vous de cette longue vie ?
Oh, vous savez, d'abord, j'ai beaucoup aimé la vie. Beaucoup, j'ai beaucoup aimé la vie. Et je sais très bien que le monde est difficile, il est cruel, il est dur. J'ai eu ma part de difficultés et même de souffrances. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'autres gens qui souffrent beaucoup plus que moi. En tout cas, même cruel, le monde est beau.
L'amour, il faut garder l'amour si l'on en croit la chanson que vous avez choisie, Les Amants d'un jour, Édith Piaf.
Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal.
L'amour, Jean d'Ormesson, au-dessus de tout.
Au-dessus de tout. Est-ce que ce n'est pas une merveille, cette chanson ? Est-ce que ce n'est pas une merveille ? Quand j'étais normalien, j'avais écrit à Édith Piaf, elle m'a répondu, et elle est venue chanter, non pas pour l'école normale, mais pour ma turne. Ma turne, c'était quatre. Une turne, c'était
votre chambre. Votre chambre d'étudiant, oui.
C'est la chambre, on était quatre dans cette chambre. Elle a chanté pour nous quatre.
Jean d'Ormesson, en votre compagnie, tout au long de cette demi-heure.
France Info.
Rencontre avec Jean d'Ormesson pour son dernier livre, Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, chez Robert Laffont. Ça fait quoi d'être devenu de son vivant un monument littéraire, Jean d'Ormesson ?
Vous savez, souvent je plaisantais en disant que ce que je voudrais être, c'était ce que les Japonais appellent un monument historique vivant. Et il y a une dame qui m'a écrit, vous êtes un trésor public. Voilà, le trésor public, c'est moi.
Vous avez eu d'autres vies quand même. Directeur au Figaro ?
J'ai été directeur au Figaro.
Est-ce que les deux étaient conciliables, littérature et engagement ?
Eh bien, vous savez, c'est une très bonne question. En vérité, je ne crois pas. En vérité, je ne crois pas. Et ça m'a beaucoup travaillé, ce problème du journalisme. Vous savez, il y a une définition de Gide qui est très belle. J'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous faites l'unanimité. Mais à l'époque, c'est vrai, vous le dites, cet engagement vous a valu, en tout cas, beaucoup d'ennemis très féroces. Par exemple, Jean Ferrat.
Oui.
À Monsieur d'Ormesson, osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville chimie.
Jean Ferrat qui dénonçait le fait que le Figaro soutienne la guerre coloniale au Vietnam.
C'est même moi qui avais écrit que le régime de Bao Dai était un régime pourri, mais qu'au moins il y avait un air de liberté qui flottait. Et vous savez, le comble, c'est que j'admirais beaucoup Ferrat.
Mais vous vous êtes réconcilié avec lui ?
Complètement. J'ai beaucoup aimé Ferrat. J'ai beaucoup aimé.
Qui a chanté Aragon, formidablement.
Et il chantait Aragon. On parlait de Mitterrand tout à l'heure. Roger Hanin avait dit, on lui avait dit, mais pourquoi est-ce que Mitterrand a appelé d'Ormesson le dernier pour parler avec lui dans le président de la République ? Et Hanin avait dit, oh, je pense qu'il voulait s'amuser, il a choisi le plus con. Et après, je me suis réconcilié avec Anna, que j'aime beaucoup.
Ah, parce que vous lui avez fait la gueule à l'époque ?
On était très mal ensemble. Ouais. Et puis on s'est réconcilié, et je sais qu'il n'est pas bien en ce moment, et je voudrais lui envoyer tous mes voeux pour lui.
Ferrat disait déjà à l'époque, hein, ce n'est pas l'homme que je vise, mais la presse de la grande bourgeoisie qui soutenait les guerres coloniales.
Oui,
et aujourd'hui, vous engageriez avec quoi ? Quels engagements vous mèneriez aujourd'hui ?
Vous savez, aujourd'hui, d'abord, je m'engagerai avec force sur la tolérance, je m'engagerai pour la démocratie.
L'ouverture à l'autre.
L'ouverture à l'autre, je m'engagerai pour les autres. Vous savez, il y a un très beau livre de Mathieu Ricard, qui est le fils de Revel, qui est bouddhiste, et il y a 900 pages sur l'altruisme. Et moi, je suis chrétien, et vous savez, être chrétien, c'est quand même penser qu'il n'y a qu'une seule façon de servir Dieu, c'est de s'occuper des hommes.
Vous avez souhaité, Jean d'Ormesson, dialoguer avec l'actrice Ludmila Mikhaël. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que
elle vous écoute, elle est là.
J'ai une énorme admiration pour elle. Je ne sais pas si elle le sait.
Bonjour, Ludmila Mikhaël.
J'avais même beaucoup d'affection pour elle.
Bonjour.
Bonjour, Ludmila. Vous savez.
Quel bonheur de vous entendre.
Je suis tellement heureux que vous soyez là. Je n'osais pas espérer vous avoir. Je me rappelle comme je vous ai admiré, comme je vous admire. Je me rappelle vous et Claudel. Je me rappelle vous et Goldoni. Dans la
villégiature.
Oh, c'était merveilleux. Vous êtes une grande actrice et vous êtes très belle. Et je suis tellement heureux que vous soyez là aujourd'hui.
Je suis tellement touchée que vous vous souveniez de moi.
Oh, comment ?
Parce que moi, mais comment dire ? C'est parce que voilà, on ne s'est pas vu depuis très longtemps.
Oui.
Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, que maintenant vous pourriez vous battre pour la tolérance. Et je voudrais faire mienne la même chose. Enfin, voilà, je voudrais dire aussi que le seul combat qui vaille, c'est pour que les hommes s'aiment plus entre eux. Et voilà. Et je pense que vous êtes un homme de cœur et un homme. De lumière, quoi. Il n'y a qu'à vous regarder d'ailleurs.
Hein. Ça se voit dans ses yeux, là, je l'ai en face de moi, il y a de la lumière dans ses yeux. Hein.
Ah oui, mais c'est quelqu'un qui rayonne parce que c'est quelqu'un qui ne cesse de se remettre en question, d'essayer de comprendre, de s'améliorer, d'approfondir ce qu'il y a de plus humain en lui. Et ça, c'est une chose qui se voit, qui saute aux yeux. Donc ça me touche vraiment beaucoup d'avoir ce petit moment avec vous.
Merci Ludmila. Je vais vous dire, je crois qu'il faut aimer les hommes, mais on a le droit de choisir aussi ceux qu'on aime le plus.
Et
bien,
C'est
vous êtes sûrement parmi ceux que j'aime le plus.
Merci beaucoup.
Est-ce que l'art, Ludmila Mikhaël, que ce soit l'écriture pour Jean d'Ormesson ou l'actrice pour vous, le fait d'interpréter, peuvent aider à faire passer ce message de tolérance ?
Ah, mais complètement. Enfin, je pense que
c'est son rôle, d'ailleurs, non ?
Je veux dire, on peut choisir les rôles qu'on joue, on choisit les auteurs qu'on joue. C'est pas simplement, enfin, peut-être au début d'une carrière d'actrice, en tout cas, je peux parler de ça parce que je connais bien, c'est une forme d'expression, on a besoin de se libérer de choses, c'est pour quelquefois dominer une certaine timidité, voilà. Mais après, je pense que c'est vraiment, moi, malheureusement, je n'ai pas le talent d'écriture, mais je peux avoir le talent de choisir les auteurs qui vont faire passer le message, qui à un moment vont parler de ce qui, moi, me touche, me préoccupe, et c'est très, très important. Oui, c'est évident.
Merci beaucoup, en tout cas, Ludmila Mikhaël.
Voilà. Merci. Au revoir, Jean. Au revoir.
Merci, Ludmila, merci.
Je vous embrasse. Au revoir.
Je vous embrasse.
Jean d'Ormesson, acteur. Eh bien, cela existe aussi. Vous avez joué le rôle de François Mitterrand, justement, votre vieil ami, si j'ose dire, dans Les Saveurs du Palais, avec Catherine Frost. Voici un extrait.
Je suis très heureuse d'être là, dans cette splendide maison, très honorée de la confiance qui m'est faite. Je travaille dans d'excellentes conditions, avec un aide, un jeune garçon très doué. Seulement, il me manque quelque chose. Il me manque une direction. Je ne suis pas certaine de savoir la cuisine que je dois faire.
Faites-moi une cuisine simple. Je déteste les complications, les préparations tarabiscotées, les décorations inutiles. Quand je suis arrivé dans cette maison, le pâtissier, sûrement pour me faire plaisir, s'acharnait à décorer ses desserts avec des petites roses en sucre. Des petites roses en sucre. J'avais en horreur ces petites roses en sucre. Systématiquement, je les écartais dans mon assiette. Et systématiquement, elles réapparaissaient dans mon assiette. À la fin, j'ai dû pondre une note écrite pour m'en débarrasser définitivement. J'ai besoin de retrouver le goût des choses.
Voilà, Jean d'Ormesson, acteur.
Écoutez-vous, j'ai quand même de la chance. Voilà trois femmes. Voilà trois femmes que j'ai connues. Ludmila Mikael, Catherine Fraud, Edith Piaf. Qui dit mieux ? Qui dit mieux d'avoir eu des liens et d'amitié, et d'affection et d'admiration pour trois femmes comme celle-là ?
Les femmes comptent pour vous, hein, quand même. Dans la vie, ça a été...
Les femmes comptent pour moi.
Fondamental, hein.
Mais il n'y a rien d'autre.
Il n'y a que ça.
Le monde n'est fait que de matins, d'enfants et de femmes.
Je vais quand même vous poser la question, Jean d'Ormesson. Qu'est-ce qui vous a pris à 85, 86 de vouloir devenir acteur comme ça, jouer un rôle, en plus le rôle d'un président ?
Écoutez, rien ne m'a pris. On est venu me chercher. Il y a quelqu'un qui s'appelle Étienne Comard, qui est un type épatant, qui a fait un film magnifique qui s'appelle Des hommes et des dieux. Et il m'a téléphoné un jour en disant je devais faire un film avec Catherine Fraud et Claude Rich. Et Claude Rich ne peut pas. Le premier coup de manivelle est dans 5 jours. Nous avons cherché partout à le remplacer. Nous n'avons pas trouvé de comédien. Nous sommes descendus aux hommes politiques. Ils se sont tous défilés. Nous sommes descendus plus bas encore. Votre nom est sorti. Je vous donne 24 heures pour choisir. J'ai dit, j'ai besoin de 2 secondes. Je dis oui.
Vous auriez aimé être acteur plutôt qu'écrivain ?
Non, non. Mais vous savez, c'est très proche l'un de l'autre. Être acteur ou être écrivain, c'est se mettre dans la peau des autres.
Et puis c'est du travail pour les deux. Je sais que vous êtes un écrivain laborieux, vous l'avez déjà raconté, vous lisez, vous relisez, vous corrigez. Est-ce que c'est quand même un plaisir ?
Ma réponse est très simple. Dans le dernier métro, Depardieu est amoureux de Catherine Deneuve. Il lui dit « c'est une souffrance de vous voir ». Et elle lui dit « mais vous me dites toujours que c'est une joie de me voir ». Et il lui répond « c'est une joie et une souffrance ». Écrire, être un écrivain, c'est une grande joie, un grand bonheur et une grande souffrance.
Donc vous êtes en train d'écrire en ce moment pour avoir un peu de bonheur ?
Oui, et puis
vous continuez, vous écrivez, vous écrivez tout le temps ?
Oh, maintenant, vous savez, je passe ma vie à écrire.
Votre deuxième choix musical, La Butte Rouge. Ça mérite une explication peut-être avant qu'on l'écoute. Pourquoi ce choix ?
Ça mérite une explication parce que je passe pour un homme de droite et je pense que je le suis. Et
ça vous gêne ? Ça vous embête ? On a le droit d'être de droite ?
Bon, je crois que si je vous disais que je suis de gauche, ça vous ferait sourire. Je crois que je suis
C'est votre parcours qui fait ça. C'est votre parcours.
Mais je suis un homme de droite un peu particulier. Je crois fondamentalement à l'égalité et je crois au progrès. Et dans les chansons, la plus belle chanson, c'est Le Temps des Cerises. C'est une chanson de gauche. Et La Butte Rouge, c'est une chanson révolutionnaire.
Le Temps des Cerises, c'était la Commune de Paris.
C'était la Commune de Paris.
La Butte Rouge, c'est un peu plus tard, c'est la Première Guerre mondiale, je crois. Hein. Voici l'interprétation d'Yves Montand sur des paroles de Georges Monteus. Le premier enregistrement était de Francis Marty, mais là, c'est Montand.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname, qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom. Baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui à des vignes il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là boira le sang des copains.
Parole forte.
Écoutez, c'est pas magnifique. Qui boira ce vin-là boira le sang des copains.
Le sang qui reste dans la terre, forcément. Et vous avez un choix millimétré, Jean d'Ormesson. on entame le centenaire de la guerre de 14 et vous me sortez cette chanson.
J'ai beaucoup d'admiration pour les poilus. J'ai beaucoup d'admiration pour les héros de la guerre. Je hais la guerre. Et je voudrais vous dire que la guerre de 40, on ne pouvait pas ne pas la faire. Et si j'ai un regret, c'est qu'on ne l'ait pas faite plus tôt.
Il fallait solder les comptes ?
Il fallait arrêter Hitler. Et je ne suis pas un belliciste, mais il aurait fallu faire la guerre en 34, 35, 36. Et Hitler aurait reculé. Et parce que nous n'avons pas fait la guerre en 34, 35, 36, Hitler a fait 100 millions de morts. La guerre de 14, j'admire beaucoup les poilus, mais c'est une guerre qu'on aurait pu et dû éviter. Qui avait raison ? C'était Jaurès.
Vous écoutez beaucoup la radio ?
Je ne veux pas vous faire de la démagogie, je suis tout le temps.
Parce que vous êtes très au fait de l'histoire, de ce qui se passe, des enjeux. Vous êtes un ancien journaliste ?
Oui.
Oui. Oui. Vous en défendiez peut-être maintenant ?
Non, non, je ne m'en défends pas du tout. Je n'ai pas été un grand directeur du Figaro. Je n'ai pas été un grand directeur du Figaro, mais enfin, j'ai fait mon métier avec passion. J'ai adoré ça. Je n'ai jamais pensé faire de la politique, mais l'observation politique m'a toujours passionné.
Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Cher Robert Laffont, merci Jean d'Ormesson.
Merci à vous.
Et vous avez été épatant.
Vous aussi, merci.
Cette émission est à télécharger sur tous les sites de podcast en s'abonnant à Rencontre avec. Vous pouvez aussi la réécouter sur franceinfo.fr ou sur mon site bernardthomasson.com. Demain, je recevrai Mathieu Gonnet.